BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la deuxième heure de BFM Patrimoine qui ouvre ses portes et on commence bien évidemment par un coup d'œil très complet sur l'actu éco avec Faiza Younzi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Younzi.
J-500, le compte à rebours est lancé avant les Jeux Olympiques de Paris. Emmanuel Macron marque le coup en consacrant sa journée à l'événement, au programme déjeuner avec les entreprises françaises qui sont partenaires des Jeux ou bien celles qui pourraient le devenir. Tous les regards sont tournés vers LVMH. Le groupe de luxe pourrait être le sponsor premium qui manque encore à l'événement. Et nous en parlerons toute la journée de cette organisation des Jeux, étapes sur les chantiers, combien d'emplois créés. Toutes les réponses à vos questions dans notre édition spéciale tout à l'heure à partir de 13h30 avec Guillaume Paul dans notre émission Business 2024. Et parce que l'organisation va aussi s'appuyer sur les dernières technologies pour assurer la sécurité. Nous en parlerons aussi dans Tech & Co ce soir avec notamment Bertrand Payès, le directeur innovation de la CNIL. Il nous dira comment la commission va réguler toutes ces technologies qui seront déployées pendant les JO. La faillite retentissante de la Silicon Valley Bank après le choc, les questions. Les régulateurs américains auraient-ils dû déceler certains signaux d'alerte? La Fed va se pencher sur les conditions de supervision et de régulation de la banque californienne. Les résultats de son enquête seront publiés le 1er mai prochain. Bruxelles dévoile tout à l'heure sa réforme du marché de l'électricité. Pour enrayer la flambée des prix, objectif élargir le recours à des contrats énergétiques à prix fixe pour protéger les consommateurs. Ce projet de réforme a été lancé après le début du conflit en Ukraine qui a provoqué une envolée des prix sans précédent. En France, demain, la commission mixte paritaire doit tenter de trouver un consensus sur la réforme des retraites, une réunion qui aura lieu à huis clos. Laurent Berger, le patron de la CFDT, renouvelle sa mise en garde contre un passage en force avec le 49-3. Demain, ce sera aussi la 8e journée de mobilisation contre le projet avec des perturbations dans les aéroports. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un vol sur 5 à Orly. Également dans l'actualité, Daniel Kretinsky, sur le point de mettre la main sur Editis. Vivendi est entré en négociation exclusive avec le groupe de l'homme d'affaires tchèque pour la cession de 100% du capital du groupe d'édition. Editis, deuxième acteur du secteur, regroupe une cinquantaine de maisons. Volkswagen met plus de 120 milliards d'euros sur la table pour sa transition vers la voiture électrique et connectée. Ça représente 2/3 de ses investissements sur les 5 prochaines années. Ces dépenses vont servir notamment à la construction d'usines de cellules de batterie et à assurer la sécurisation des matières premières nécessaires à leur fabrication. Guillaume Mullier, le membre de la famille Mullier, propriétaire du groupe Auchan, est décédé hier dans une avalanche. On l'a appris ce matin. Son groupe, 6 personnes en tout, a été enseveli sous la neige sur la commune de Modane. En Savoie, les 5 autres personnes s'en sont sorties indemnes. Guillaume Mullier est décédé malgré l'arrivée des secours. Âgé de 61 ans, il avait créé la société Dimo Software.
Merci beaucoup Faiza. Faiza Younzi, chaque heure, pour lire l'actualité économique. Nous, tout de suite, on se connecte au marché actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Grâce à Sarah Thirion qui nous attend chez TPI Cap. Bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Bon, le moins qu'on puisse dire quand on regarde le profil de notre CAC 40 depuis l'ouverture, c'est qu'il y a un petit peu de nervosité, non ? On fluctue et la victime, ça pourrait être le niveau des 7000 points.
Oui, évidemment, on a toujours des surprises, bonnes ou mauvaises, mais il est difficile effectivement d'enterrer des peurs qu'on a déjà connues en 2008, même si bien évidemment la faillite des 3 banques américaines dont on parle depuis plusieurs jours maintenant est à relativiser puisque ce sont des banques régionales, mais c'est vrai de s'interroger à nouveau malheureusement sur la capacité d'anticipation et de gestion des risques du secteur. Et chez SVB spécifiquement, on avait une base d'actifs qui était essentiellement constituée d'obligations long terme à taux fixe. Au moment où, en fait, depuis des mois, on sait que la Fed va faire le whatever it takes pour conjurer l'inflation par les taux. Donc voilà. Après, on peut s'interroger aussi, évidemment, sur la façon dont ces banques-là sont surveillées, les banques de plus petite taille, de évidemment constater l'incidence de l'environnement de taux qui est progressivement pénalisant pour le canal de crédit. Et puis, quand même, les marchés de se raccrocher à l'idée, c'est pour ça qu'on baisse pas tant que ça aujourd'hui, que finalement, malgré des statistiques macroéconomiques récentes qui étaient plus soutenues que prévues, la Fed pourrait marquer une pause ou temporiser en tout cas le rythme de relèvement des Fed Funds. Et on aura tout à l'heure en milieu de journée donc les chiffres de l'inflation US pour le mois de février qui, s'ils sont en ligne avec les attentes, c'est-à-dire témoignant d'une légère décélération, on pourrait laisser supposer que la Fed puisse lâcher un peu le pied. Voilà, et lever un peu le pied en tout cas, et du coup, évidemment, ça soulage un pan de la cote. Donc, ça a rebattu quand même un peu les cartes sur les marchés en termes de performance sectorielle. On était ensemble il y a 2 semaines, je crois, et on citait le secteur bancaire comme étant surprenamment une surperformance majeure de ce début d'année. Et évidemment, cette surperformance s'est réduite, même si ça reste un territoire positif pour l'instant, year to date.
Voilà donc quelques observations sur cette tendance. Un dossier peut-être que vous vouliez mettre en lumière, Icade ?
Icade qui sort véritablement du lot aujourd'hui, puisque dans un marché quasiment atone, le titre prend encore 6% à la faveur donc de la cession qui a été annoncée d'Icade Santé à Prémonial Reim. Le groupe Icade avait essayé une tentative d'IPO fin 2021. Malheureusement, les conditions de marché n'étaient pas réunies. Et donc, a annoncé hier s'être entendu pour effectivement, c'est une sortie totale d'Icade de la foncière santé sur la base d'une valorisation de 2,6 milliards. Qui va se faire en 2 temps, d'ici juin-juillet, 1,4 milliard pour 64% de la participation, puis la cession du sol d'ici la fin 2025. Icade a par ailleurs confié dans les mains effectivement de ce nouvel acquéreur Prémonial la cession d'Icade Healthcare Europe à matérialiser. Et tout ça va venir abonder d'une part au désendettement du groupe, d'autre part permettre effectivement de financer la croissance future, qu'elle soit organique ou externe. Et enfin, effectivement, ça va mener à une obligation de distribution de dividendes exceptionnels qui va être de l'ordre de 710 millions d'euros distribuables sur 2 ans.
Eh bien, voilà quelques idées sur ce dossier Icade. Merci beaucoup, Sarah. Sarah Thirion, Tipeee Icap qui nous accompagnait ce matin. Le marché sur les 7000 points, 7007, il perd 0,06%.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin François Dossou. Bonjour François.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour Siena Gestion et Laurent Denise. Bonjour Laurent.
Bonjour Cédric.
Pour Odo BHF Asset Management. Allez, on va commencer avec la question qui tue. Y a-t-il un problème bancaire, Laurent ?
Comment dire ? Est-ce qu'il y a un problème bancaire ? Oui, avec
on rappelle,
banques.
Les valeurs financières mondiales, en 2 jours, ont perdu plus de 460 milliards de dollars de capitalisation boursière.
Oui, les banques qui étaient en hausse de 25% sont en hausse de, entre 5 et 10%, quasiment perdu 20%. Banque européenne, attention, effectivement, il y a un problème bancaire, un problème avec les banques régionales américaines, certaines banques régionales américaines. On rappelle quand même un chiffre, ça représente simplement 1%, la SVB, 1% des actifs des banques américaines. Après, effectivement, le risque, il est dans la contagion. On a effectivement là des incertitudes sur 2 choses. La qualité, en fait, de la gestion actif-passif de ces banques, et on voit que c'est le problème essentiel de la SVB, Silicon Valley Bank. Et le deuxième problème, c'est effectivement l'impact qui commence à être mesuré sur l'ensemble de l'écosystème financier de ce durcissement monétaire. Et effectivement, ça crée un désordre sur certaines banques qui n'étaient pas bien gérées. Est-ce que pour autant c'est un risque ? Ça reste un risque mesuré ? Oui, pour nous ça reste un risque spécifique. Et donc il faut aussi raison garder, j'ai envie de dire.
Il ne faut jamais, même si ce que nous dit aujourd'hui Laurent, on l'entend un peu partout, que le risque de contagion, que ceci, cela est limité, que c'est vraiment très circonscrit, etc. Malgré tout, François, il ne faut jamais sous-estimer, on va dire, une crise bancaire, financière.
Bien sûr, parce qu'une banque, ça ne reste pas une entreprise comme une autre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des banques qui sont très interconnectés, et donc lorsque une ne va pas bien, forcément ça impacte forcément les banques qui sont de même nature. Mais comme le disait Laurent tout à l'heure, nous sommes en train de parler d'une banque avec qui est quand même très très spécifique, qui est très locale. nous sommes quand même très très loin du syndrome Lehman, où nous étions plutôt sur une banque internationale avec des activités qui n'ont rien à voir. Comme le disait tout à l'heure Laurent, nous sommes plutôt dans une problématique de financement des start-up plutôt que dans une crise bancaire. Et encore faudrait-il rappeler que l'action de la Réserve fédérale avec le gouvernement et le trésor américain, je pense que la réponse a été plus qu'adaptée et qu'aujourd'hui, même si on peut raisonner par l'absurde en considérant qu'on était peut-être au début d'une crise systémique, je pense que la réponse qui a été apportée aujourd'hui...
Est ferme et, voilà, je et pense, nette.
Oui, je pense
et l'allocution de Biden aussi.
Si vous voulez, la rapidité, j'ai été particulièrement impressionné. Heureusement que c'est,
ça n'a pas tardé,
c'est arrivé un vendredi et ça leur a donné le temps le week-end de pouvoir s'organiser.
Bon, pour autant... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations et vous l'avez sous-entendu Laurent dans votre propos qui disent voilà, on est aussi au moment à un moment où on commence à percevoir tout ce que la remontée de taux, la fin de la politique monétaire accommodante, etc. peut produire comme effet, c'est-à-dire que ça jette tout cru devant les yeux de tout le monde l'arrivée au taux terminal, enfin je veux dire, et tout le monde semblait dans le discours très hawkish de Jerome Powell devant la Chambre des représentants et devant le Sénat, c'était il y a tout juste quelques jours, tout le monde semblait avoir dit, ok, on est bien sur nos deux rails, on va se faire 50 points de base la prochaine fois, et puis enfin voilà, donc tout semblait hyper drivé. Je vais pas dire que c'est un château de cartes, mais pas loin, si on en enlève une, ça tombe, non, enfin, ça, où est-ce qu'on en est ? On voit ce matin John Plassard chez Mirabeau qui nous révèle que Nomura, c'est la première institution qui pronostique une baisse de 25 points de base, là pour le 22 mars. Hein.
Ah, d'accord.
Là, donc, où est-ce qu'on en est? Enfin, comment on voit?
On non, mais pas justement. Tout à fait sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce qu'on.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la Fed, je parle pas des mesures réglementaires et autres typiques SVB, mais se retrouve contrainte dans une politique monétaire qui semble être super cadrée?
Alors, la Fed est évidemment prise entre l'enclume et le marteau. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un chiffre d'inflation cet après-midi, hein, vraisemblablement autour des 6%. Donc, ça décélère 6,4, 6, mais ça décélère à une vitesse très, très faible. On connaît les raisons, le marché, la démographie, le marché de l'emploi américain. Et il y a des raisons endogènes, et pas simplement exogènes, qui sont liées, en fait, à cette inflation collante, résiliente. Mais là, je vous rejoins, l'événement qui vient de se passer, parce que finalement, cette banque, elle est isolée, mais si on regarde l'ensemble des banques régionales, ça représente quand même 20% des actifs. Donc finalement, il faut quand même avoir en tête que, oui, ce n'est pas un risque systémique, et je vous rejoins, François, la réponse a été immédiate et vraiment très, très efficace. Pour autant, effectivement, la Banque Centrale Américaine va devoir prendre en compte le fait que la transmission, c'est vraiment ce que vous avez évoqué, en fait, entre banques, la confiance entre banques, elle est altérée. C'est évident. Et on le voit, JP Morgan, les grandes banques ont vu des afflux de dépôts venant de ces banques régionales.
Le risque, c'est le bank run sur toutes les autres.
Mais c'est exactement ce que vous avez dit. Il y a 10 jours, on était sur une surchauffe américaine avec des taux terminaux à 6%. Là, on est sur une probabilité de récession qui est en train de monter. Et là, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que les banques vont moins prêter. Et donc, la banque centrale américaine va devoir prendre en compte cet état de fait. Donc, le taux terminal, effectivement, doit être revu un peu à la baisse. Pour autant, est-ce qu'on doit attendre des baisses de taux ? Alors là, non. Là, non. Écoutez, là,
vous n'êtes pas sur la ligne de Nomura.
Non, je ne rejoins pas Nomura. Et puis, attention, hein, on a un phénomène ponctuel. En dehors de ça, on a des événements endogènes, inflationnistes, qui, là, doivent être absolument réglés. On est sur une décélération de l'inflation, un peu moins rapide qu'anticipé, honnêtement. On s'attendait à ce que ça aille plus vite que ça. Hein. C'est pas le cas. Et donc, la Banque Centrale Américaine, et pas simplement la Banque Centrale Américaine, la Banque Centrale Européenne, doivent aussi prendre ces paramètres en compte. Donc, on est dans une période où les taux terminaux vont certainement moins monter qu'anticipé, mais attendre une baisse des taux rapide, et c'est d'ailleurs ce que le marché price aujourd'hui, hein, deux baisses de taux, ça nous paraît là aussi exagéré. La baisse des taux de 100 points de base des taux américains en deux jours me paraît plus qu'exagéré. Donc j'ai envie de vous dire, il faut peut-être se repositionner un tout petit peu dans l'autre sens et anticiper peut-être que les taux remontent légèrement après cette exagération.
Comment appréhendez-vous, François, cette espèce de trouble malgré tout qui survient un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine alors que tout semblait bien dessiné.
Non, mais surtout un éléphant que personne n'a vu venir. Hein. C'est pas comme si on ne savait pas que la politique monétaire allait devenir moins accommodante. En fait, moi, je suis assez surpris par la capacité de certains acteurs à changer quand même de cap aussi facilement. En fait, on est en train de parler d'une baisse des taux, alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, les banques centrales ne sont même pas sûres que les actions qu'elles ont faites sont suffisantes. Donc, effectivement, passer d'une hausse de taux à horizon 2023 avec une baisse de taux qui arriverait alors que les banques centrales, rappelez-vous, hein, il y a encore un an, on était à des taux qui étaient proches de zéro.
Oui, c'est ça.
Elles sont aujourd'hui 400 BP plus haut, mais c'est plus que normal qu'il y ait des frictions dans l'économie. C'est-à-dire qu'effectivement, les conditions financières se durcissent. À partir du moment où elles se durcissent, la question, c'était pas est-ce que ça allait craquer, c'était à quel endroit est-ce que ça allait craquer. Bon, on imaginait l'immobilier. Bon, c'est pas au niveau de l'immobilier aujourd'hui, c'est au niveau des financements des startups. Mais de là à aller imaginer que la Banque centrale, après s'être trompée quand même sur son diagnostic sur l'inflation, rappelez-vous, elle nous disait que l'inflation était plutôt temporaire. On s'est rendu compte qu'il n'en était rien.
Elle doit le prendre en compte, mais ça ne doit pas changer.
Absolument, elle doit le prendre
le scénario central.
Dans son discours, en fait, elle doit rassurer, elle doit prendre des mesures qui montrent qu'elle est bien là et qu'elle est capable d'agir si besoin. Mais je pense qu'on n'en est pas encore à une logique de baisse de taux, parce qu'aujourd'hui, ce serait une très mauvaise réponse à un problème qui est identifié et qui était quelque part anticipable.
Là, c'est vrai qu'actualité oblige, on se focalise un petit peu sur la Fed, alors que c'est plutôt la BCE qui est à l'honneur cette semaine, mais il y avait eu la même pression, parce que juste après le discours de Jerome Powell que j'évoquais, hein, devant le Congrès américain, tous les taux terminaux, toutes les anticipations avaient pris l'ascenseur, hein, que ce soit sur la Fed, bien sûr, sur la BOE, mais aussi sur la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qui est... Voilà, là, chez nous, il n'y a pas de problème. Normalement, le scénario qui avait été télégraphié par Lagarde, il reste bon, 50 points de base, tout ça, on continue.
Je ne pense pas que la BCE revienne sur ces 50 BP. Après, effectivement, bon, on va voir, hein, puisque c'est quand même, il faut regarder aussi ce que fait la Banque Centrale, la Fed, hein, et puis aussi la Bank of England, ça c'est clair, hein, c'est un jeu à plusieurs partenaires, avec la Banque du Japon, hein, que vous n'avez pas évoqué, mais effectivement, le changement de gouverneur avec M. Ueda à la tête, alors on a la fin de la période fiscale en mars, donc il n'y aura rien, mais après, on peut s'attendre que soit en avril, soit en juin, on ait peut-être une évolution de la politique monétaire japonaise. Qui pour l'instant injecte des liquidités. Donc en face, on avait des banques centrales qui retiraient des liquidités. Ça faisait une somme pas nulle, mais pas loin. Là, on peut se retrouver dans un moment qui évolue avec des masses de capitaux aussi qui pourraient bouger. Un point très important. Les banques centrales, effectivement, sont dans la lutte contre l'inflation. Mais ce que nous disent les événements des fonds de pension anglais. Ce qui vient de se passer, c'est que finalement, il faut faire très très attention au levier qui est embarqué, caché ou pas caché, dans en fait le système financier. On n'est plus dans une perspective d'argent à taux nul.
Ouais, c'est ça.
Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en tant qu'allocataire, il faut regarder effectivement quels sont vos risques. Et les risques, essentiellement, sont liés à cette distorsion entre les revenus qui sont quand même en train de décélérer et les coûts du capital, les coûts de capital ou de coûts de financement qui, là aussi, sont en train de monter très fort. Donc, il y a tout un pan, en fait, de l'économie à la fois financière, mais pas simplement financière. On le voit avec les start-up. Hein. Les taux de financement des start-up sont passés de 10 à 20% là, ouais, en 15 jours.
Ce que nous dit Laurent, c'est très intéressant, c'est que finalement, on a vécu 20 ans avec une banque centrale une banque centrale qui était notre copine. Et là, il faut réapprendre à faire de la finance à l'ancienne.
Exactement. C'est exactement ça.
Ça veut dire juste qu'il faut être plus sélectif. Ça veut dire qu'on ne peut plus se permettre de tout acheter.
Ah,
et lorsque vous financez une entreprise, vous devez quand même vous préoccuper davantage de la viabilité de son activité. Et donc là, on retrouve en fait, on est dans un phénomène de normalisation. C'est la situation avant qui était anormale.
Oui, c'est
une situation où vous avez...
Oui, mais n'empêche qu'on a beaucoup d'acteurs de marché, on le dit tout le temps, jeunes, qui n'ont pas connu autre chose qu'une banque centrale copine.
Ah oui, mais là, on va réapprendre à faire son métier. C'est-à-dire que il faudra d'une manière ou d'une autre tenir compte du fait que aujourd'hui, en fait, vous avez des contraintes de financement qui sont beaucoup plus importantes sur le marché.
Et du coup,
il faut, je me permets, il faut apprendre deux choses. Aussi apprendre à raisonner en taux réel. On raisonnait en taux nominal aujourd'hui. En fait,
bah oui, forcément, il y avait zéro d'inflation.
Et voilà. Donc, en fait, il y a la hausse des taux, mais il y a aussi l'inflation. Et donc, lutter contre l'érosion du capital qui est liée à cette inflation. Et ça demande vraiment un changement d'état d'esprit dans l'analyse, et c'est fondamental. Quel actif va vous permettre de limiter votre érosion du capital et donc ne pas vous appauvrir? Et c'est pas en gagnant 3% qu'on va y arriver. Faut avoir ça en tête. Pourquoi? Parce que l'inflation, comme je vous l'ai dit, est plus collante, entre guillemets, qu'anticipée.
Et du coup, ça veut dire que les marchés restent aujourd'hui intéressants parce qu'ils étaient quand même au perché. 7401, c'était il y a tout juste une semaine, c'était mardi dernier, sur notre CAC. Les boîtes, on l'a vu, la saison de publication est maintenant terminée, mais le bilan qu'on peut faire de cette saison est quand même hyper positif. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez? Parce que de l'autre côté, on a quand même le marché obligataire qui a cette inversion de courbe qui gêne aussi pour... Enfin voilà, donc comment est-ce que vous... régler un peu le curseur chez Siena?
Alors, le curseur, en fait, pour le régler aujourd'hui, il faut se poser la question: quel est votre horizon d'investissement? Effectivement, par rapport à un changement éventuel, hypothétique, moi, je pense qu'il ne se produirait pas d'une banque centrale qui serait plus accommodante. Vous avez une inflation qui reste très très collante. Donc à partir de ce moment, l'inflation, c'est quand même l'actif. L'actif qui vous protège le plus de l'inflation, c'est les actifs risqués. Et donc, pour nous, aujourd'hui, nous étions plutôt sous-pondérés sur la classe action parce que nous trouvions quelque part qu'il manquait un peu de catalyseur. Mais effectivement, cette baisse des marchés, c'est une opportunité. Paradoxalement, aujourd'hui, pour aller à l'encontre même de ce que pense Nomura, c'est que nous pensons que les opportunités, elles viennent même de la partie courte de la courbe. C'est-à-dire que vous venez d'avoir 60 BP de baisse de taux courts sur des anticipations hypothétiques de baisse des taux courts de la Banque centrale, de la Réserve fédérale. Nous pensons que justement, il faut plutôt être sous-sensible aujourd'hui parce que cette correction, elle va finir par se produire lorsque les intervenants se rendront compte que la Banque centrale va pas baisser la garde par rapport à l'inflation. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'inflation, quand même, elle est de nature, lorsque vous regardez le déflateur du CPI, lorsque vous regardez le déflateur, elle est essentielle, elle vient essentiellement de la marge des entreprises. Et donc, dire que les banques centrales vont commencer à baisser les taux alors que on ne voit pas encore ce phénomène de diffusion de la politique monétaire sur les marges des entreprises qui, elles, continuent à faire passer des hausses de prix, c'est quand même prématuré. Donc nous allons plutôt nous positionner contre un mouvement de baisse de taux, parce que nous considérons que cette baisse de taux de la part de la Réserve fédérale, c'est un phénomène, c'est plus qu'hypothétique.
On rappelle, c'est une institution, enfin, c'est Nomura
Ce point est absolument fondamental. Mais ça signifie aussi qu'on ne peut pas acheter le marché actions dans sa totalité. Pourquoi? Parce que certaines sociétés vont réussir à conserver des marges et certaines, non. Donc, en fait, il y a un vrai effort de sélection. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on allège un peu nos positions sur le crédit. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un événement qui fait que les banques, en fait, et même, j'ai envie de dire, le secteur financier va moins financer. Bien et sûr. Donc, forcément, on va avoir des taux de défaut qui seront supérieurs à ce qu'on avait anticipé. Donc, attention à la partie haut rendement, les obligations risquées. Et là, effectivement, il faut faire, si on les achète, il faut plutôt aller chercher des durations relativement courtes où là, on n'a pas de mur de refinancement devant nous. On a à peu près 2 ans. Et donc, la durée de vie de ces produits est relativement courte. Donc là, on y va. Et après, effectivement, on regarde les marchés actions de nouveau. Et on reste constructif. Honnêtement, on était sur des valorisations aux États-Unis quand même assez élevées. Ça ne nous paraît pas être la zone géographique la plus appropriée. En revanche, la Chine, les marchés émergents, l'Europe, l'Europe, on est évidemment lié aux États-Unis, mais un chiffre simplement, l'augmentation en fait, des crédits bancaires en Chine a explosé. Ça veut dire que le multiplicateur du crédit nous montre que vraisemblablement la croissance va accélérer très fortement. Il ne faut pas oublier quand même, et il y a une certaine complaisance du marché par rapport à ça, l'événement Poutine, la guerre que va faire Poutine dans les prochaines semaines, c'est quand même possible. Donc le choc d'offre, il est toujours là. Et puis, positivement, à l'inverse, la Chine, le redémarrage. On a un événement, effectivement, la SVB et voilà, les conséquences qui doivent être prises en compte. Mais il faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur les paramètres en fait, qui avaient dicté notre allocation et qui sont des paramètres de long terme qu'il faut absolument prendre en compte.
Merci à tous les deux d'avoir échangé autour de ces grands sujets qui forgent aussi la tendance. Donc François Dossou, directeur de la gestion Action de Siena Gestion, et Laurent Denis, je vais y arriver jusqu'au bout, pour Oddo BHF Asset Management. Merci à tous les deux. BFM Patrimoine qui vous accompagne bien évidemment 2 heures durant chaque matin, vous le savez, mais qui vous accompagne aussi sur les réseaux sociaux, sur le digital. Julie Cohen-Hurton, vous recevez tout à l'heure Christopher Dembick pour parler d'investissement irresponsable, c'est ça ?
Irresponsable, exactement. À l'heure où on ne parle que de finances durables, est-ce que finalement la solution pour performer, ce ne serait pas de tabler sur des valeurs quelque peu irresponsables ? Eh bien, on va tout vous dire à partir de 12h15 en direct sur tous nos réseaux sociaux dans BFM Patrimoine, le live, aux côtés effectivement de Christopher Dembick pour Saxo Bank. Et d'ici là, écrivez-nous, posez-nous vos questions à l'adresse bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr.
Cédric. C'est à suivre, 12h15 sur nos supports digitaux. Dans un instant, un regard technique sur le marché. C'est Romain Dobry que l'on retrouvera depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Dernière demi-heure de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi et chaque demi-heure, vous le savez, est l'occasion de faire un point sur le marché, point technique grâce à Romain Dobry depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct qui nous accompagne ce matin. Rebonjour Romain, et pour le moment on a préservé les 7000, on reprend quelques couleurs on va dire.
Rebonjour Cédric. Ouais, on est assez attentiste pour l'instant dans une zone technique 7003-7033 sur le futur CAC 40. On est en bas d'une zone de consolidation cible technique. Il faut dire que la semaine est technique aussi puisque c'est une échéance importante, l'échéance trimestrielle du mois de mars sur les marchés dérivés. Donc vendredi prochain, pas mal de contrats d'options et de futures vont clôturer et ça joue aussi. On note d'ailleurs que les opérateurs n'avaient pas envisagé le débordement de 7400 points sur l'indice CAC 40 au cours du mois de mars puisqu'il n'y avait pas d'options de vente ouvertes au-delà de ce niveau-là. Donc c'était un phénomène intéressant, même si on rebondissait et qu'on aille rechercher retester ces niveaux, manifestement ça n'est pas envisagé. Alors toujours probablement effectivement des mouvements techniques à surveiller et au débordement ou à la rupture de certains supports liés à cette échéance des marchés dérivés. Pour l'instant, encore une fois, ça reste assez canalisé chez nous en Europe, avec pas de pression baissière, des portefeuilles couverts. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent et on teste en ce moment des niveaux de support clés sur le S&P. Le niveau de support qui est de 3810 est un gros support, plusieurs fois testé, autour duquel il avait construit la hausse récente. Il l'a préservé assez nettement, donc ça reste pour l'instant technique, même si c'était un mouvement un peu brutal et avec un peu de volume, on le disait, ça reste assez technique. Ce sont des niveaux de retracement aussi techniques, 50 à 61, 80% de retracement de Fibonacci sur le Nasdaq, sur le S&P. Donc ce sont des niveaux qui sont bien observés pour l'instant par les opérateurs et qui peuvent fournir des points d'entrée intéressants. On note d'ailleurs qu'hier, toutes les GAFAM étaient dans le vert sur le Nasdaq et que l'indice tient plutôt bien. Alors, ce sont des niveaux à ne pas rompre, au risque d'accélérer un peu plus à la baisse. Pour nous, en Europe, c'est un peu différent. La configuration est plus d'une consolidation pour l'instant, après un très beau parcours depuis le mois de septembre. On a pas mal d'avance. Donc on peut se permettre de consolider un peu plus. Le niveau donc à préserver sur le CAC 40, je vous le donnais tout à l'heure, c'est 6984 en clôture. Hein, on peut le tester en intraday au risque d'aller chercher une zone 6830-6865 qui serait un meilleur point d'entrée encore. Je suis d'accord avec ce que disait Jean-Louis, il va falloir reconstruire de toute façon quand on a une accélération baissière marquée comme ça, qu'on rompt une zone de consolidation par le bas, qu'on va chercher le bas de la suivante avec un peu de volume. Il va falloir quelques heures pour digérer ça au moins ou avec ce risque d'accélération baissière complémentaire. Pour l'instant, c'est pas le cas. On reste constructif sur le marché. Ce qui est intéressant aussi d'observer dans ces cas-là, quelles sont les valeurs qui surperforment, c'est-à-dire quelles sont celles qui baissent le moins. celles qui sont le moins vendues, parce que c'est un signe de force, évidemment, et donc de regarder lesquelles les opérateurs conservent ou lesquelles ils seraient susceptibles de renforcer. On reste constructif parce qu'il faut rappeler que au cours de la séquence de hausse qu'on a connue, beaucoup d'opérateurs étaient restés sur place. Il y avait même beaucoup de stratégies baissières chez les institutionnels, on le rappelle, sur les marchés américains notamment. Et donc, il y a toujours cette volonté probablement d'achat sur repli. Et là, les prix deviennent plus attractifs, les niveaux sont plus intéressants qu'aux alentours de 7400 points. Alors, je pense que 200 points de plus, ça mettrait pas mal de monde d'accord. Mais pour l'instant, ça peut être des niveaux à surveiller. Donc, il y a des choses qui se mettent en place de ce côté-là. Si on veut regarder les secteurs aussi qui se surperforment un petit peu aujourd'hui, il y a l'immobilier commercial. La Chine est toujours des points d'entrée intéressants après avoir pas mal retracé, même si toujours on recommande une pondération un peu plus faible compte tenu du facteur politique qui est un peu complexe. L'industrie, la santé et la construction, ainsi que l'alimentation, ce sont les secteurs qui tiennent un peu mieux dans cette séquence de consolidation pour l'instant et d'attente.
Merci beaucoup Romain Daubry, donc, pour la cellule Info d'Experts de Bourse Direct qui nous accompagne chaque mardi matin sur ce marché pour toutes ces considérations graphiques et techniques. Le CAC 40 qui grignote 0,2%, 7025 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Les coulisses du patrimoine qui accueillent ce matin Fabien Vatinel, bonjour. Merci Bonjour d'être Cédric. Avec nous pour Neuflize OBC. Alors, on va prendre un peu de hauteur sur les aspects patrimoniaux et évoquer les tendances de plus long terme, tendances qui se dessinent et dont on n'a pas toujours conscience. Et commençons par parler fiscalité, c'est souvent le cas quand on parle de gestion de patrimoine, et de la flat tax. Ça date de 2017, c'est stable, et c'était déjà une vraie révolution.
Oui, c'était une révolution. Si on se rappelle un peu, si on prend l'historique, avant, les revenus finalement du patrimoine financier étaient taxés à l'impôt sur le revenu en tranche marginale, plus les prélèvements sociaux. On avait des taux supérieurs à 40% pour les dividendes, jusqu'à plus de 60% pour les intérêts. Les plus-values mobilières étaient également avec un système complexe d'impôt sur le revenu et d'abattement pour durée de détention. Depuis 2017, c'est un marqueur fort de l'ère Macron. On a un taux forfaitaire à 30% qui inclut l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, est stable, comme vous le disiez, depuis 2017. Et ça, c'est extrêmement important et sécurisant pour les épargnants, pour les investisseurs.
C'est-à-dire que depuis la flat tax, rien?
Depuis la flat tax, non, je dirais pas rien. Déjà, il y a eu un autre dispositif important, là encore, qui a renforcé la confiance, c'est le remplacement de l'ISF par l'IFI, qui est un impôt sur le capital, mais qui ne s'applique plus que sur les actifs et sous-jacents de nature immobilière. Et puis, au-delà de ça, on voit une inflexion, une orientation des nouveaux dispositifs, je dirais, vers tout ce qui est encouragement à la transition énergétique, à la rénovation des logements. Ce sont vraiment des marqueurs forts. Si on prend quelques exemples, les derniers dispositifs, la loi Climat Résilience d'août 2022, en fait, prévoit justement donc des encouragements et aussi des sanctions pour lutter contre les logements énergivores. Donc tout ce qui est passoire thermique, finalement, les propriétaires n'auront plus le droit d'appliquer des révisions de loyer, des compléments de loyer, ni même de louer. Et ça entrera en vigueur progressivement en fonction justement de la classification du logement. Les logements classés G, c'est déjà le cas aujourd'hui, puis classé F à partir de 2028, et puis au-delà de 2034, classé E même. Donc il y a des dispositifs fiscaux justement qui vont encourager les travaux également en ce sens.
Fabien, vous parlez beaucoup des particuliers. Côté entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors côté entreprise, la fiscalité corporate est souvent plus stable que la fiscalité personnelle et elle va dans le bon sens et dans le sens notamment vraiment d'un renforcement de la compétitivité des entreprises françaises. Donc on le voit à travers plusieurs dispositifs. Le premier, c'est l'IS. Mmh. Donc le taux d'IS, il y a encore 7 ans, le taux d'impôt sur les sociétés était de 33%, il y a encore 7 ans. Il est aujourd'hui de 25%, donc il y a une baisse continue, aujourd'hui stabilisée. Les premiers bénéfices pour les PME sont taxés à un taux réduit de 15%, et ce plafond a été relevé à 42 000 euros. Donc tout ça est encourageant. On peut citer le dispositif Jeunes Entreprises Innovantes, JEI, qui permettent de bénéficier d'exonérations d'exonération justement d'IS, d'exonération aussi d'impôts locaux, d'exonération de cotisations sociales patronales. Donc tout ça va dans le dispositif d'un renforcement de l'attractivité des entreprises et puis également une baisse des impôts de production qui est très notable avec notamment la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises réduite de moitié cette année et totalement supprimée l'année prochaine, ce qui va renforcer l'attractivité des entreprises face aux concurrents notamment européens.
On sait que on parle souvent de la compétition internationale, et c'est vrai que vous parliez du taux d'IS, mais c'est aussi quelque chose dont on parle au niveau international. Qu'est-ce qu'il en est? On parle de ce taux d'IS maximum, notamment. Enfin, comment est-ce qu'on doit regarder tout ça?
Alors, si on prend un peu de recul, hein, faut se rappeler que dans les années 80, le taux d'IS moyen au niveau mondial était de 42%. Aujourd'hui, le taux d'IS moyen mondial est inférieur à 25%. Donc on a eu pendant 40 ans une tendance à la baisse, une course à la baisse du taux de l'IS pour jouer justement la compétition par rapport aux concurrents. Cette course, elle a été stoppée, on peut dire, en 2021. C'est vraiment un axe majeur. On n'en a pas encore perçu, je pense, toutes les conséquences parce que l'administration Biden, justement aux États-Unis, a souhaité financer les méga plans de relance justement en relevant le taux de l'IS, en le portant de 21 à 28%, le taux de l'IS fédéral américain. Différents pays sont dans cette démarche-là. Donc là, on a eu une fin de la course au moins 10 ans fiscal et la fin d'une ère finalement néolibérale en rupture avec l'ère Trump. C'est quand même un fait marquant aujourd'hui qui se stabilise.
Et il y a une volonté de réguler aussi un peu ça de façon internationale, qu'on puisse plus tirer dans les pattes, quoi.
Exactement. La mondialisation en fait de l'économie entraîne une nécessité de régulation, ça requiert une régulation, c'est le cas. Alors, il y a différents acronymes, différents dispositifs sans rentrer dans le détail. On peut dire que effectivement, aujourd'hui, sous l'impulsion de l'OCDE, du G20 et dans le cadre de l'Union européenne, il y a différents dispositifs d'échange automatique d'informations et de régulation qui portent des acronymes barbares, d'ACCIS, d'ACCET, ATAD, ATAD3. Donc, tout ça sont des échanges et des contrôles, finalement, pour réguler cette mondialisation.
Bon, ça fait quand même pas mal de choses qu'on se raconte depuis qu'on discute. Est-ce que tout ça, ça a influé sur le comportement des épargnants, des entrepreneurs? Est-ce que vous arrivez à distinguer ça?
C'est intéressant, là on va plus sur les aspects de comportement finalement et d'aspiration. Donc oui, quand on regarde les acteurs économiques et moi en échangeant avec nos clients, on constate de plus en plus une quête de sens. C'est-à-dire que les clients veulent bien sûr de la structuration de leur patrimoine, souhaitent des performances, mais sont aussi dans une quête de sens. Et je dirais tous les acteurs, que ce soit les clients particuliers, les entrepreneurs, on le voit, aujourd'hui ils demandent aussi...
Ils n'ont plus le couteau entre les dents.
C'est-à-dire qu'ils veulent un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme, ils le trouvent notamment dans la philanthropie, dans le mécénat, où là, c'est vraiment un don sans contrepartie, que ce soit en termes de compétences, d'argent, de temps. Et certaines familles, certains entrepreneurs créent leur propre véhicule philanthropique, fondation, fonds de dotation. Nous-mêmes, on a créé un fonds de dotation au sein de la banque pour aider et sélectionner des projets clés en main ou sur mesure pour les clients qui sont dans cette quête.
Ça veut dire qu'on voit ça dans leurs investissements y compris.
C'est une autre dimension et dans les investissements, on le voit de plus en plus, à la fois allier cette quête de sens à une recherche de performance. Et ça, c'est possible et on le voit, on constate dans la montée en puissance finalement des investissements socialement responsables, ISR, aujourd'hui, qui intègrent des critères justement d'analyse ESG, c'est-à-dire intégrant des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ça permet finalement de lier les deux aspects. Les clients plus exigeants qui veulent encore plus loin, peuvent faire des investissements à impact, où là, outre la performance, ce qui est recherché, c'est finalement des impacts positifs et mesurables sur des aspects sociaux, environnementaux. Et l'offre, je dirais, du marché, d'abord la législation est orientée en ce sens, et l'offre de la banque également pour encourager et favoriser justement ces investissements socialement responsables.
Bon, tout ça découle de nouveaux aspects un peu patrimoniaux qui sont issus aussi de tendances de long terme. Merci beaucoup Fabien Vatinel, donc pour l'ingénierie patrimoniale de Neuflize OBC. À très bientôt.
Merci Cédric, c'est un message finalement d'espoir et d'avenir.
Eh ben, Merci beaucoup d'être venu. Le passé, le marché parisien, il est toujours, pour le moment, en petite hausse. Plus 0,25%, 7028 points. Et puis, vous le savez, nous sommes à 500 jours désormais des JO 2024 à Paris. Et c'est une journée spéciale que vous retrouvez tout au long de ce 14 mars sur l'antenne de BFM Business. Notez d'ores et à présent les rendez-vous, hein, 13h30, 19h30 et 21h35 pour les principaux événements de cette journée spéciale.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et c'est Jean-Louis Deloro qu'on accueille pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Cédric.
Pour BFM Business, n'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr et chaque jour, vos questions trouvent leur réponse. On commence avec Alexandre qui vous interroge. Les notaires gagnent-ils des intérêts avec l'argent des comptes sous séquestre ?
Alors la réponse est oui. Vous savez, quand vous achetez un appartement, une maison, ou quand vous êtes dans le cadre d'une succession, à un moment donné ou à un autre, l'argent va passer par un compte sous séquestre que votre notaire ouvre obligatoirement, hein, à la Caisse des dépôts et consignations. Or, bah, peu de gens le savent, mais cet argent génère des intérêts. Tout cela est réglementé, hein, et actuellement, le taux qui est fixé par arrêté est de 0,3%. Et d'ailleurs, ouais, il pourrait être amené à...
Pas de quoi faire des bons.
Bah, alors, oui et non, parce que 0,3%, ça dépend sur quel encours.
Oui, on est d'accord.
Et l'encours est très important. J'ai posé la question à la Caisse des dépôts et ils m'ont dit que c'était autour de 47 milliards d'euros fin 2021 et fin 2022, ça sera vraisemblablement dans ces eaux-là, hein, peut-être 48 milliards, mais voilà. Donc, ça fait quand même des millions d'euros chaque année d'intérêt pour les notaires. Alors, qui va toucher cet argent ? C'est là que ça se complique un tout petit peu, hein, parce qu'en principe, les notaires touchent les intérêts pendant les 3 premiers mois. Ensuite, ces intérêts doivent revenir à leurs clients. Techniquement, hein, au bout de 3 mois, en fait, l'argent change de place. Il va passer du compte de disponibilité courante au compte de dépôt obligatoire. Voilà. Donc il y a un enjeu là-dessus. Mais c'est déjà arrivé que des notaires conservent les fonds plus de 3 mois pour continuer à toucher les intérêts, ce qui est normalement interdit, hein. Donc si vous avez des doutes, vous pouvez demander à votre notaire combien seront les intérêts si, par exemple, vous avez de l'argent qui a été bloqué pendant plus de 3 mois.
Quand on sait que le sous-séquestre date de plus de 3 mois, on peut appeler son notaire.
Voilà. Bah, en tout cas, ça vaut le coup de rien que de poser la question, en tout cas, même si bien sûr, hein, du côté des notaires, on dit que c'est marginal, hein, quand il y a des soucis là-dessus, mais bon, ça vaut quand même le coup de leur poser la question.
Voilà, Alexandre, effectivement, le notaire gagne de l'argent. Question d'Esther, elle a entendu dire qu'elle devait maintenant déclarer au fisc son logement dont elle est propriétaire. Elle se demande si c'est vrai.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le fisc n'a pas forcément fait beaucoup de communication pour l'instant. Enfin, des mails ont commencé à arriver, mais pas encore pour tout le monde. Parce que c'est la première année où s'applique une nouvelle obligation de déclaration pour tous les propriétaires. Alors que ce soit votre résidence principale, mais votre résidence secondaire ou encore un bien mis en location. Peu importe, hein, vous devez tout déclarer à partir du moment où il s'agit d'un local à usage d'habitation. Donc, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas aux locaux commerciaux. Vous avez comme délai jusqu'au 30 juin 2023 inclus. Après, il sera trop tard et vous pouvez être sanctionné par le fisc. En cas de défaut de déclaration, vous risquez 150 euros par local. Je cite, si en cas de non-déclaration, erreur, omission ou déclaration incomplète. Alors, qui est concerné, hein, c'est ouais, environ 34 millions de propriétaires.
Et personne ne le sait.
Ben non, c'est assez peu. Alors, on suppose quand même qu'avec la campagne de l'avis d'imposition sur le revenu, la thématique va revenir et que les gens vont un petit peu plus être au courant. Mais c'est pour ça qu'on le dit aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut le redire. Donc il faut noter ça. Après, il y a quelques... Cela concerne toutes les formes de propriété, il faut le préciser, c'est-à-dire que vous soyez en indivision ou propriétaire d'un usufruit, ou même que vous détenez via une SCI, une société civile immobilière, là vous êtes concerné. Concrètement, vous devez vous rendre sur le site des impôts, impots.gouv.fr, il y a une rubrique qui s'appelle « Gérer mes biens immobiliers ». Là, normalement, il y a une liste de vos biens immobiliers avec plusieurs informations comme leur adresse, leur superficie, etc. Et pour chacun d'entre eux, vous allez confirmer ce que le fisc normalement doit déjà savoir. Et sinon, si c'est votre résidence principale, secondaire, que c'est un local loué, vacant ou occupé à titre gratuit, on vous demande aussi de renseigner le loyer mensuel, éventuellement, hors charge, ou encore le début de la période de location si c'est une location saisonnière, si c'est un local qui sert pour de la location saisonnière. Et à quoi ces informations ont-elles servi?
Oui.
Principalement, le fisc va établir à partir de ça qui doit payer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou les logements vacants. Enfin, si, ça peut être le cas si votre bien immobilier n'est pas listé. Hein, je vous conseille d'appeler le fisc pour voir ça avec eux et qu'ils vous repèrent, parce qu'on ne vous réclame pas derrière des informations alors que vous ne pouviez pas les remplir.
Eh bien, on va essayer de suivre ça avec intérêt, Esther. Donc, ouais, il va falloir se coltiner une, entre guillemets, une déclaration de plus. On passe à la question que vous envoie Claude. Peut-on faire démolir une éolienne si l'étude d'impact environnemental est mauvaise?
Oui. Alors, vous savez...
Sachant que c'est une... Une question qui va intéresser plus d'un ou plus d'une auditrice. Je pense notamment à Marie-Christine Sonquin, qui est très engagée, la rédactrice en chef du patrimoine des Échos, qui est très engagée contre les éoliennes.
Oui, bah oui, hein, les éoliennes, c'est un sujet qui cristallise les tensions. Il y a souvent beaucoup de constructions qui sont attaquées en justice, hein, puisque les riverains sont généralement pas très contents. Et donc oui, il y a une étude d'impact environnemental. Si elle est mal faite, elle peut avoir de lourdes conséquences pour une éolienne. Et c'est ce que vient de confirmé il y a assez récemment un arrêt de la Cour de cassation. Alors dans ce dossier, il y avait un riverain qui avait attaqué en justice la construction d'une éolienne. Il pointait notamment du doigt l'insuffisance de l'étude d'impact environnemental et il avait réussi à faire annuler le permis de construire de l'éolienne après sa construction. Les juges avaient considéré que les règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique, c'est comme ça qu'on appelle ça, n'avaient pas été respectées. Mais le constructeur d'éoliennes, bah, il s'est pourvu en appel puis en cassation. Il n'était pas d'accord. Il estimait que une étude d'impact, c'était un élément quand même secondaire par rapport aux autres règles à respecter pour obtenir un permis de construire. Et surtout que c'était pas une méconnaissance des règles d'urbanisme ou de servitude. Mais la Cour de cassation a jugé qu'il avait tort. Pour elle, une mauvaise étude d'impact a forcément une influence sur la décision de l'administration pour délivrer ou non un permis de construire. Ça peut justifier une demande en démolition derrière. Donc en revanche, il y a des conditions, en tout cas dans cet arrêt concerne une éolienne qui a été construite dans un secteur protégé. Donc c'est par exemple un site remarquable, la bande littorale, un site classé ou encore dans un parc national éventuellement.
Bon, ben voilà, quelques armes pour lutter contre la prolifération de ces éoliennes pour certains ou certaines. Question de Frédéric. Je suis en train de vendre mon parking et mon notaire me réclame un pré-état daté réalisé par le syndic. Et le syndic lui facture ça 250 euros. Et il se demande s'il a le droit de faire ce pré-état daté lui-même.
Alors oui, hein, c'est un grand classique, mais ça pourtant on n'est pas tellement au courant. Contrairement à ce que votre notaire peut vous dire ou vous inciter à faire, rien ne vous oblige à passer par votre syndic pour le pré-état daté. En revanche, vous avez bien l'obligation d'en fournir, hein. Vous ne pourrez pas faire de vente sans ça. Au moment de la promesse de vente immobilière, qu'il s'agisse de toute façon, peu importe, d'un parking, d'un bien immobilier, c'est en effet obligatoire depuis la loi Allure qui a été votée en 2014. Auparavant, on ne demandait au propriétaire qu'un état daté au moment de la signature de la vente, c'est-à-dire de l'acte authentique. Mais depuis 2014, il est désormais obligatoire de fournir un document similaire au moment de la promesse de vente. Et donc, c'est vrai que les gens ne le savent pas, mais vous pouvez le faire vous-même.
Alors, comment on fait ça?
Alors, en fait, votre syndic, normalement, doit regrouper toutes les informations sur votre extranet, vous savez, ou sinon il doit vous le mettre à disposition. Mais généralement, maintenant, tout le monde dispose d'un extranet, voilà. Et donc, vous allez sur le compte, et donc, ils doivent vous fournir tous les documents. Et donc, après, il faut savoir ce qu'on retrouve dans un pré-état daté. Et là, je vous conseille d'aller sur le site de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, qui liste tout ça. On ne va pas tout donner, mais par exemple, il y a le montant des charges, les sommes qui restent dues par le propriétaire à la copropriété, l'état des impayés et de la dette fournisseur, le carnet d'entretien de l'immeuble. Enfin voilà, il y a tout un tas d'informations. Et si vous n'avez pas accès à ces informations, c'est que le syndic est dans l'illégalité. En revanche, vous devez savoir que pour l'état daté, hein, qui reprend
le vrai entre guillemets le vrai document,
le vrai document, mais qui reprend les mêmes éléments, hein, mais au jour de la vente, là vous avez l'obligation de passer par votre syndic. Vous n'avez pas le choix, et là ils ont le droit de vous le facturer jusqu'à 380 euros l'acte. Voilà, et on est toujours content de ça, sachant que ça prend à peu près...
Alors qu'en fait ce seront les mêmes documents,
et ça prend à peu près 3 minutes à faire, et tout est automatisé maintenant, donc voilà, ça fait un peu cher quand même.
Ça a remplacé les quotas de photocopie qui existent moins à cause de Internet, je pense. Allez, il nous reste 3 minutes pour répondre à Robin qui a débloqué son plan d'épargne entreprise il y a 2 ans, et ce, afin d'acquérir sa résidence principale. Et il se demande s'il peut le débloquer de nouveau pour ce même motif?
Alors c'est oui, et c'est une question qui revient assez souvent avec les plans d'épargne entreprise. Mais dans le cas le Quentin, vous avez tout à fait le droit de débloquer votre PEE, comme on dit, lorsque vous achetez votre nouvelle résidence principale, peu importe de quand date votre dernière acquisition, ça peut même être d'il y a 6 mois, parce que la loi prévoit de la possibilité de débloquer de manière anticipée toute ou partie de son plan d'épargne, notamment les fonds. Parce que normalement, les fonds sont bloqués, vous savez, pendant une période de 5 ans. Ouais. Mais dans certaines situations, vous pouvez récupérer vos fonds plus tôt. Et donc, en fait, c'est le cas, par exemple, en cas de mariage, à la naissance d'un enfant, lors d'un divorce, ou encore quand vous achetez un bien immobilier pour en faire votre résidence principale ou que vous montez votre entreprise. Alors, cette possibilité de déblocage est valable pour ce qu'on appelle chaque fait générateur. Autrement dit, c'est le cas à chaque naissance d'un enfant, par exemple.
D'accord.
Si vous vous mariez plusieurs fois ou si vous divorcez plusieurs fois. Il y a toutefois quelques petites conditions à respecter, mais elles sont d'ordre général. Hein. Déjà, pour une résidence principale, en fait, ça ne peut concerner que l'acquisition en direct et en pleine propriété. Hein. Donc, si vous passez par une SCI, une société civile immobilière, ça ne marchera pas.
C'est niet.
Ensuite, la résidence doit être normalement, en principe, occupée immédiatement. Et si vous achetez un terrain en vue de construire votre maison, il faut vraiment qu'il y ait le projet qui soit déjà bien engagé de construction, sinon ça ne marchera pas non plus. Et par contre, il faut aussi que les fonds soient débloqués en une seule fois. On ne peut pas débloquer en plusieurs fois les fonds. Et enfin, il y a certains fonds, des plans d'épargne entreprise, on ne le sait pas, qui ne peuvent pas être débloqués de manière anticipée. C'est par exemple le cas des actions issues de la levée d'options sur titre ou des actions gratuites, hein, ce qu'on appelait avant les stock options.
Bon, donc sur son PE, on peut. Hein. Il me semble que sur d'autres plans d'épargne, notamment, je me demande si sur le PER, il n'y a pas des histoires de. Alors, on ne peut développer qu'une fois.
Un peu différentes
pour chaque cas.
Parce que si c'est un PER, un PERCO, bon, etc. Ouais. Il y a des règles un petit peu différentes.
Mais là, on parle donc du PEE qu'on peut débloquer plusieurs fois pour le même motif. Merci d'avoir répondu à toutes les questions de nos auditeurs ce matin. Donc, Jean-Louis Delloro pour BFM Business. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire chaque jour, BFM Patrimoine à bfmbusiness.fr. Dans un instant, vous retrouvez Sandra Gandoin pour 90 minutes business. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Le sommaire du jour.
Aujourd'hui, on va revenir sur la réaction des marchés au lendemain du sauvetage par les autorités américaines de la banque SVB. En Europe, c'est Crédit Suisse qui inquiète. On va voir un petit peu si ça a un lien, tout cela, avec Antoine Larigauderie et Caroline Morisseau. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des Jeux Olympiques de Paris. On est à 500 jours. Notre invité, ce sera Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo. On parlera aussi de billetterie dans notre débat avec Pierre Rondeau. Et puis, n'oubliez pas, deuxième partie de l'émission, 12h55. On vous aide à recruter et on répond à toutes vos questions. D'ailleurs, Paris 2024 recrute. Bref. Gros programme aujourd'hui, Cédric.
Le marché parisien, il grignote 0,21%. Il y a pas mal de nervosité ou d'attentisme. On est à 7026 points. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain, 10h.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.